France Musique. Musicopolis. Gustav Mahler, la première symphonie ou l'histoire d'un malentendu. En 1909, Gustav Mahler est à New York où il dirige l'orchestre philharmonique. Il écrit à son ami Bruno Walter à propos de sa première symphonie qu'il vient de donner en concert. « Quand je dirige ces ouvrages, ce qui m'arrive est étrange. Une sensation de douleur, de brûlure se cristallise en moi. Quel est donc ce monde qui, dans le miroir de l'art, projette de tels sons et de telles formes ?» La première symphonie de Mahler est aujourd'hui considérée comme l'une des plus accessibles. En revanche, lorsque le compositeur l'a présentée au public de Budapest en 1889, elle n'a pas été comprise du tout, du tout. L'histoire de la réception de l'œuvre est celle d'un malentendu. Mahler dira quelques années plus tard « Dans mon inconscience totale, j'avais alors écrit une de mes œuvres les plus hardies et je pensais encore naïvement qu'elle était d'une facilité enfantine, qu'elle allait plaire immédiatement » et que j'allais pouvoir vivre tranquillement de mes droits d'auteur. Pour retracer la genèse de la première symphonie de Mahler, il faut remonter... Eh bien, en fait, on ne sait pas trop quand. Ce qui est certain, c'est qu'il a fait le plus gros de son travail de composition vers le début de 1888, tout en utilisant pas mal de thèmes et d'extraits d'œuvres qu'il avait écrits plusieurs années auparavant, dès le début des années 80. Mais puisque ce qui compte, c'est l'agencement de tous les éléments et la véritable construction de la pièce, nous commencerons notre histoire en février 1888. Cette année-là, le jeune Gustav Mahler est sous contrat comme chef d'orchestre avec l'Opéra de Leipzig, où il seconde le déjà célèbre Arthur Nikisch. Sur le plan musical, c'est un poste de rêve, avec un formidable orchestre, celui du Gewandhaus, et d'excellents chanteurs. Même si la rivalité avec Nikisch est assez pénible, Mahler connaît quelques franches réussites de direction. Et surtout, il mène à bien la reconstruction d'un opéra inachevé de Weber, dit Drei Pintos, qu'il dirige en janvier 88 avec un très grand succès. Pendant qu'il travaillait sur la partition de Weber, Mahler a beaucoup fréquenté la famille Weber, Karl, le petit-fils du compositeur, Marion, son épouse, et leurs enfants. Il a trouvé chez eux beaucoup d'affection et une atmosphère pleine de chaleur humaine. « Mais voilà que pendant que Mahler fréquentait la famille Weber et qu'il travaillait à reconstruire Didra et Pintos, il est tombé follement amoureux de Marion. La passion qu'il éprouve pour Marion cause à Mahler un immense tourment. Mais en même temps, cet orage intérieur est un formidable moteur pour sa création. Depuis quelques années déjà, Mahler a commencé à composer quelques lieder, notamment un court cycle de quatre qu'il a nommé « Chant d'un compagnon errant ». Le deuxième a déjà été entendu à Prague 2 ans auparavant, avec Mahler au piano. Il a été très apprécié. « Ging heute morgens übers Feld »« Ce matin, j'ai marché à travers champs ». Le poème, de Mahler lui-même, décrit le narrateur heureux, du moins au début, de se promener dans la nature, parlant aux fleurs et aux oiseaux. Il demande « Le monde ne sera-t-il pas beau ?» Mahler s'est servi de son lied pour nourrir sa symphonie. La scène délicieuse qu'il décrit dans le poème se trouve transposée dans le premier mouvement. Avec toute sa connaissance et son art de l'orchestre, il crée une version musicale des sons de la nature, des bruits de la forêt. Et il ajoute aussi la présence des humains qui viennent introduire dans la scène les sonneries plus triviales de leurs fanfares. Après avoir terminé sa première symphonie au printemps 1888, Mahler se met en quête d'un orchestre qui pourrait la jouer. Il la propose à droite, à gauche, à des orchestres de l'Empire d'Autriche-Hongrie ou des États allemands. Mais personne n'en veut. Du moins jusqu'en novembre 1889, où il va lui-même assurer la création à Budapest, où il est à présent le directeur artistique de l'opéra. Le public hongrois l'apprécie et il a obtenu quelques beaux succès en dirigeant notamment plusieurs ouvrages de Wagner. Il a fait entendre quelques leaders salués par la critique comme des exemples accomplis de lead allemand. Mais cette belle entente avec public et critique va se gâter lorsqu'il va diriger sa symphonie. Elle ne s'appelle d'ailleurs pas symphonie. Pour le moment, c'est un poème symphonique en deux parties et cinq mouvements. Sans écrire un véritable programme, Mahler a donné quelques clés d'écoute à certains journalistes. Le premier mouvement rappelle les sons du printemps, tandis que le deuxième est une sérénade évoquant l'extase amoureuse. Si vous connaissez bien la première symphonie de Mahler, vous êtes peut-être interloqué derrière votre poste. Mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? Jamais entendu. Eh bien, c'est le morceau que Mahler avait placé en deuxième position dans son poème symphonique et que, lors de la première grande révision de l'œuvre en 1893, il avait intitulé « Blumen, fleurette ». Un morceau aimable et plutôt plaisant pour le public. Tout comme le suivant, qui tient lieu de scherzo, animé avec force, mais pas trop vite. Le public de Budapest, qui a eu la primeur de la première symphonie de Mahler en novembre 1889, devait évidemment reconnaître dans ce mouvement un typique Ländler autrichien, comme on en dansait dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, du genre qu'on trouve aussi chez Schubert ou chez Bruckner. Et ce même public pouvait aussi s'y retrouver dans la valse délicate qui forme le centre du morceau. Le public de Budapest en 1889 tolère la première partie de la symphonie de Mahler, même si l'orchestration paraît un peu exagérée à certains et que l'apparition de fanfares dans le premier mouvement sort déjà un peu de la convention symphonique de l'époque. Globalement, un mélomane de 1889 au goût un peu traditionnel peut encore s'y retrouver. Mais en arrivant au début de la deuxième partie, rien ne va plus. Passe encore que Mahler ait utilisé un thème de lead dans le premier mouvement. Mais à présent, il reprend carrément une chanson enfantine, Bruder Martin, Frère Jacques. Mais il la transforme en marche funèbre et avec une orchestration insensée. Mahler a expliqué qu'il avait illustré musicalement dans ce mouvement une gravure célèbre d'un dessinateur autrichien que tous les enfants autrichiens et allemands connaissaient à cette époque, les funérailles du chasseur. On y voit le cercueil du chasseur, accompagné par un cortège ironique de toutes sortes d'animaux qui prennent des poses affligées. Une marche funèbre sur Frère Jacques en forme de variation symphonique, c'est assez choquant. Mais pourtant, pas autant que ce qui arrive juste après, une rengaine de bohémiens qui arrivent en fanfare. En 1893, 4 ans après la très mauvaise réception de son poème symphonique à Budapest, Mahler va revoir sa partition pour un concert à Hambourg. Il change le titre. Il l'appelle à présent « Titan », poème sonore en forme de symphonie, en 5 mouvements et 2 parties. Ce titan représenterait, comme il l'a dit plus tard, un homme héroïque et fort, sa vie et ses souffrances, son combat et sa défaite face au destin. Puisque l'œuvre avait été si mal comprise à la création, Mahler a décidé de lui adjoindre un programme explicatif qui développe les titres des mouvements. Première partie, souvenirs de jeunesse. 1. Le printemps sans fin. 2. Fleurette. 3. Toute voile dehors. Deuxième partie, la comédie humaine. 4. Marche funèbre à la manière de Callot. Et 5. De l'enfer au paradis. Cette fois-ci, le public est assez satisfait, mais les critiques restent globalement hostiles. Quelques mois après l'exécution de Hambourg de 1893, Mahler a la possibilité, grâce à l'entremise de Richard Strauss, de redonner encore sa première symphonie, cette fois-ci à Weimar, dans un festival. Si Mahler a une mauvaise réputation comme compositeur, en revanche, il est très admiré comme chef. Quand le petit homme au visage ascétique monte sur le podium, écrit un auditeur du concert, qu'il lève sa baguette et jette sur l'orchestre un regard perçant, les musiciens se raidissent et l'on sent à quel point ils se tiennent secrètement sur le qui-vive, au garde-à-vous. Avec ses gestes brusques et saccadés, Mahler est l'image vivante de l'énergie concentrée. Le moindre de ses nerfs vibre et il réussit à communiquer sa plus délicate émotion aux musiciens pour qu'ils exécutent ses désirs par une intuition divinatoire. En dépit de l'admiration du public pour le chef Mahler, la réception de la première symphonie à Weimar en mai 1894 est très mitigée. Pour quelques enthousiastes, beaucoup de sifflets très violents. Décidément, le malentendu persiste. L'œuvre est trop en avance sur son temps. Ce sera encore le même scénario à Berlin en 1896. Une hostilité générale, à peine balancée par quelques enthousiasmes. À présent, plus de titres. C'est seulement une symphonie en ré majeur pour grand orchestre. Et le deuxième mouvement a été supprimé. Plus de programme non plus. Mahler pense maintenant que non seulement les explications n'expriment pas de manière juste le caractère des morceaux, mais qu'en outre, elles peuvent mettre le public sur une fausse voie. Il explique « Aussi longtemps qu'il me sera possible d'exprimer en paroles ce que j'ai éprouvé, je ne ferai jamais de musique. Mon besoin de m'exprimer musicalement, symphoniquement, ne commence que là où règnent les sentiments obscurs, aux portes qui mènent à l'autre monde, là où les choses ne sont plus détruites par le temps et l'espace. » Après le fiasco du concert de 1896 à Berlin, Mahler est très bouleversé. « Tu verras, dit-il à son amie Nathalie, que je n'assisterai pas vivant à la victoire de mes œuvres. Tout ce que j'écris est trop étrange et trop nouveau, et les auditeurs n'arrivent pas à franchir le gouffre qui les sépare de moi. Les hommes n'ont pas encore pénétré le chemin de mon langage. J'en suis venu à m'interroger sur l'utilité de cette souffrance, de cet affreux martyr. » En 1898, pourtant, à Prague, enfin, le public et les critiques vont célébrer la première symphonie. Chacun des mouvements est applaudi et à la fin du concert, sous les ovations, on offre à Mahler une palme et une couronne de laurier. Il était temps. Finale de la première symphonie de Gustav Mahler par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein. Tout le programme, la réécouter, le podcast sont, bien sûr, sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Et pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet Contact. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Cédric Châtelus pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation, Hortense Leblouc pour les recherches et Élise Kravets pour le site.
À réécouter sur francemusique.fr.